France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un conte de Noël aujourd'hui, l'histoire de ce que peut le collectif, la force d'être ensemble, le récit d'une mobilisation, mais pas à la force du poignet, plutôt un élan qui vient tout seul, naturellement, sans se forcer. Ça se déroule dans un quartier historique à Paris, entre Barbès et la Goutte d'Or, au lieu de l'immigration maghrébine et des luttes pour les droits des immigrés. Un quartier en pleine mutation, où les bobos version fauchée côtoient encore les vieux immigrés, mais un quartier qui semble aussi prêt à tout pour se gentrifier. Peut-être à la fin de cette émission, cependant, vous direz-vous comme moi que c'est au fond l'histoire de gens qui n'ont pas peur les uns des autres, qui se connaissent car ils se fréquentent régulièrement, se parlent, ils ont des liens. Et quand on cherche à comprendre pourquoi la haine est parfois devenue en France une seconde peau, on se dit que se connaître, se croiser au café, dans la rue ou à la recyclerie, venir manger ensemble le couscous gratuit que le restaurant Les Trois Frères a offert aux habitants et aux étudiants tous les jeudis soirs pendant des années, ça sert à ça, à ne plus avoir peur. Je suis au bord du lieu commun, je sais, ou de la naïveté, j'y suis déjà bien engagée, je sais. Mais n'empêche, on peut peut-être être un peu cucu le jour de Noël et aimer son prochain. Mébarek et la force du collectif, c'est un récit d'Émilie Chaudet.
Alors, je m'appelle Amma Mébarek. J'habite à l'hôtel des Trois Frères, 14 rue Léon, dans le 18e. J'ai 68 ans. Ça fait 35 ans que j'habite dans cet hôtel. Je suis tombé là-bas par hasard. Par hasard, je cherchais une chambre et j'ai trouvé cette chambre-là. À l'époque, c'était 90, c'était la destinée noire en Algérie. Donc, j'ai fui parce que j'ai des copains à moi, des collègues de travail qui ont perdu la vie. Je sais que c'est moi le prochain, alors je me suis taillé. Avant, c'était des gars de chez nous qui avaient cet hôtel. C'est des Kabyles, quoi, c'est des Algériens. Et un lavabo, une douche, c'est tout. Le frigo, il est à moi, c'est moi qui l'ai acheté, la télévision, elle est à moi. Il y a une vieille table et une chaise, à peu près une dizaine de mètres carrés, c'est tout. À l'époque, c'était dérisoire, le loyer était dérisoire par rapport à maintenant. 1400 francs, ils sont conciliants avec tout le monde. Des personnes qui connaissent, qui sont des clients, tu vois, de confiance. Même s'il a un petit problème, deux mois, il finira par payer, il n'y a aucun problème. Je me suis toujours débrouillé, je travaillais, j'ai appris à faire la cuisine, j'ai fait les chantiers à un certain moment, la rénovation d'appartements. Et puis comme avec le temps, je ne peux plus assumer, c'était un peu trop lourd, les charges, les tâches et tout, je me suis reconverti dans la cuisine. Et je travaille toujours comme cuisinier. Depuis le confinement que j'ai appris ça. Il y avait le propriétaire de l'hôtel où j'habite qui a mis à notre disposition toute sa cuisine. On récupérait des produits des grandes surfaces, on cuisinait et puis on mettait dans des boîtes, on distribuait. Le maraude le soir, on distribuait pour les gens dans la rue. Moi, j'ai toujours envie de rendre service aux gens. Que ce soit cuisiner des plats, que ce soit aider une personne âgée ou écrire une lettre à quelqu'un, n'importe quoi. Je n'ai jamais dit non à quelqu'un. Donc, je vis à l'hôtel des Trois Frères. Je connais tous les locataires qui sont là-bas depuis 30 ans, 32 ans, 35 ans. Et c'est des personnes âgées, c'est des retraités. Ils sont très vieux là-bas. Ils sont vendus à partir du 1er avril. Eux, ils arrivent au 1er avril, au 1er juillet, ils ont augmenté de 150 euros. À partir du 1er juillet 2025, ils ont affiché comme ça que les chambres passeront de 500 à 650. Je lui dis, je ne pense pas à la faisabilité de la chose. C'est une augmentation assez lourde pour des gens qui ont une petite retraite, qui travaillent sporadiquement comme ça.
À qui vous disiez ça?
Au gérant de l'hôtel où j'habite. Il me dit, j'ai rien à cirer, il faut payer ou partir. Moi, j'ai toujours refusé de payer cette augmentation parce que j'ai jugé qu'elle était illégale. C'est 500 euros que je payais chez les anciens propriétaires et j'espérais ça. Ils se sont mis à louer au SAMU social, donc ils essaient de mettre les anciens locataires dehors. Ils m'ont dit que votre chambre nous rapporte deux fois plus que vous payez. C'est 1200 euros la chambre. Ils la louent, nous on paye 650, ça ne les intéresse pas. Et finalement, il y a des gens qui ont décidé de payer et se taire. Ils font à tout prix dégoûter les gens pour partir. D'ailleurs, pas mal de gens qui sont partis. Les mecs qui parlaient vraiment mal aux gens, c'est des vieux, c'est des personnes âgées, ils étaient un peu choqués, ils étaient un peu... Par exemple, voilà, y a le chauffage ne marche pas, et ils leur gueulaient dessus. Écoute, on est presque fin octobre, il n'y a pas de chauffage à l'hôtel, c'est pas possible, c'est des vieux, il y a des bébés. Finalement, ils ont fini par mettre le chauffage. Après, maintenant, c'est les travaux. Et qu'il a fermé toutes les sanitaires du 5e au 2e étage. Il a laissé 2 toilettes en bas pour 40 personnes. L'alarme à 2h du matin, 5h du matin, 4h du matin, sans raison, comme ça, des fois, deux fois dans la nuit, c'est terrible. Et ça sonne vraiment fort. Donc j'ai payé le mois d'août, septembre, octobre. Je ne l'ai pas payé. Je lui ai dit je te paye la fin du mois au lieu du début du mois parce qu'on paye un mois à l'avance. Il m'a dit d'accord. Et finalement, le 24, à l'époque, je ne travaillais pas. Je suis sorti acheter du pain. Il m'a accosté comme ça sur le trottoir. Et je lui ai dit écoute, on s'est mis d'accord. Je ne peux pas te donner de l'argent que je n'ai pas dans ma poche. Je ne suis pas un magicien. Il m'a dit bon, on verra ça. Il est parti en courant. C'est un de ces gars, un de ses collègues à lui, qui m'a dit « Fais gaffe qu'il ne te fasse pas des crasses, qu'il ne monte pas dans ta chambre. » Je l'ai suivi doucement, j'ai trouvé la porte fermée, il a bloqué de l'intérieur la porte. Il ne voulait pas répondre à rien du tout. Je suis redescendu en bas pour voir le barman. Je lui dis parce que je n'avais même pas mon téléphone sur moi. J'essaie de l'appeler au téléphone puisqu'il ne veut pas m'ouvrir la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? En remontant une deuxième fois, j'ai trouvé toutes mes affaires sur le palier, qu'il a mis des nœuds sur des draps, il a jeté ça devant les toilettes. Il est parti en courant. Après, moi, j'ai fait quoi? J'ai appelé la police, je lui ai dit, voilà, il y a quelque chose d'illégal qui vient de se passer. J'ai été expulsé pour rien du tout. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, je suis chez moi. Habité dans un endroit pendant 35 ans, et du jour au lendemain, sans avertissement, tu trouves tes affaires sur le palier. C'est choquant, c'est vraiment choquant.
Je m'appelle Lucas, j'ai la quarantaine, et je suis habitant de la rue Léon dans la Goutte d'Or. J'ai découvert le bar-resto Les Trois Frères avec leur hôtel pendant le confinement, parce que c'était à l'époque, j'avais une amie qui m'a dit de venir voir un petit peu ce qui se passait, parce qu'elle avait rejoint un collectif qui faisait de la récupération alimentaire. Je suis venu voir et ça me convenait complètement, ce genre de choses, donc j'ai pas mal suivi le move à ce moment-là avec elles et eux, et donc à cette occasion, on a rencontré plusieurs fois les patrons des Trois Frères, là, à Reski et à Seine à l'époque, et c'est comme ça qu'après, des relations d'amitié se sont tissées. Alors mes baraques, je ne connaissais pas personnellement parce que je ne croisais pas souvent, mais ouais, on se côtoyait avec pas mal de locataires longue durée de l'hôtel autour du bar ou du resto, puisque ils fréquentaient aussi ce comptoir-là et ces tables-là. Le bar et le resto, c'était un lieu de rendez-vous pour de nombreux habitants et habitantes. Quand les frères ont annoncé qu'ils vendaient, on était un petit peu surpris, même si on se doutait bien que ça allait pas encore durer pendant des années, quoi, mais... Et puis au début, il y a une petite phase de flottement avec la nouvelle équipe. Donc c'est un groupe hôtelier qui a racheté l'ensemble de l'immeuble et des beaux commerciaux, restaurants et hôtels. Et donc on leur a laissé le temps de prendre leur marque et tout. Et puis on a quand même rapidement constaté qu'au niveau de l'hôtel, il y avait des dysfonctionnements et que la situation se crispait avec notamment certains locataires qui d'un coup montraient des signes... de véhémence, des comportements où ça s'engueulait avec le nouveau gestionnaire, on comprenait pas trop pourquoi, mais ça semblait pas très clair. Avec les frères, moi j'avais jamais assisté à des phases comme ça. Ils vont commencer à augmenter les loyers pour mettre les gens à les forcer au départ. Ils maximisaient quand même beaucoup les chambres avec le SAMU social. Et là où les frères le faisaient avant, il me semble qu'ils le faisaient pas dans les mêmes proportions. Parce que là, on a eu quand même beaucoup de femmes avec enfants qui ont commencé à arriver à l'hôtel. Donc, avec aucun accueil à l'entrée. Hein. Moi, à titre personnel, j'ai assisté à une scène où une dame avec un bébé en bas âge, vraiment. Elle a dû arriver vers 21h30, 22h. Parce qu'elle était aiguillée par le SAMU social, la porte de l'hôtel était fermée, et donc du coup elle s'est présentée au restaurant, et donc au restaurant personne n'était au courant de son arrivée, et puis au restaurant tout le monde disait que ça n'était pas son problème, parce qu'ils géraient le restaurant et pas l'hôtel, et donc il était impossible d'ouvrir la chambre. Donc la dame, elle est restée pendant 1h30, je pense, facile, à attendre sur une chaise avec un verre d'eau. Donc on a vu ce genre de choses, de toute façon on a bien vu que là ça allait surtout optimiser le 115, sans trop se poser des questions sur les conditions d'accueil et visiblement peut-être d'hébergement. On s'était donné rendez-vous à la rentrée pour commencer à s'organiser, à voir un petit peu comment les choses allaient évoluer. C'est à cette occasion qu'il y a eu la présentation d'un livre ici à la ressourcerie Le Poulpe, qui est en bas de la rue Léon, donc qui est vraiment à 2 minutes à pied de l'hôtel. Pendant cette présentation du livre d'Ajar Ben Boubaker, donc par Barbès Blues, il y avait des questions-réponses par rapport à l'histoire du quartier, l'histoire militante du quartier, l'histoire de l'immigration dans le quartier. C'était entendu qu'il y a un temps qui soit ouvert à Mebarek pour qu'il puisse venir parler publiquement de la situation. Ouais. Et donc là, ça a été quand même une prise de conscience pour pas mal de monde du quartier qui était habitué également aussi à fréquenter cet établissement. Il y a des gens qui ont dit qu'il fallait qu'on se mobilise et qu'on crée un comité de soutien. Donc c'est vraiment ce soir-là qu'il a été décidé de se réunir genre 15 jours plus tard pour débuter à s'organiser. Donc on s'était donné un rendez-vous à la semaine de la rentrée, 5 novembre. Sauf qu'en fait, entre-temps, tout s'est déclenché avec l'expulsion de Mebarek. Et je reçois un SMS qui me prévient que Mebarek du coup s'est fait expulser de sa chambre et qu'il est parti au commissariat de la Goutte d'Or pour porter plainte, mais ça n'a pas été possible, ils ont juste accepté de faire une main courante. Et donc moi à ce moment-là je suis en télétravail chez moi, et donc je décide de faire une petite pause et de descendre voir ce qui se passe aux trois frères. Donc là je vois le gestionnaire qui veut pas discuter de ça avec moi, qui me dit que si je suis pas content, c'est avec la police qu'il faut que je discute. J'en profite pour retrouver Mebarek qui me dit que lui il voudrait essayer d'aller faire son dépôt de plainte mais du coup au Comico du 18e, donc rue Clignancourt. Donc on y va ensemble avec Alain, également un autre locataire. Nous disent que ça relève du droit du commerce, que de toute façon, comme il y a déjà eu le dépôt de la main courante à la Goutte d'Or, ça sert à en refaire une deuxième ici, donc ils pourront pas faire grand chose de plus. Et là, il y a pas mal de coups de fil qui ont commencé à être passés par différentes personnes en parallèle, hein, donc c'est à ce moment-là que, dans la demi-heure qui suit, on a quelqu'un qui est au droit au logement, qui a été contacté et qui vient nous retrouver et qui commence lui à nous apporter les premiers éléments, comme quoi, donc on est bien sur une situation illégale. Et on est rejoint après dans la foulée par une habitante du quartier qui est avocate également et qui, elle, a fait des premières recherches et qui nous a sorti les deux ou les trois textes de loi qui n'ont pas été respectés cette journée-là.
Moi, à ce moment-là, il s'avère que j'étais chez moi, je travaillais depuis chez moi. Donc, on reçoit l'information. Mebarek a été expulsé. Toutes ses affaires ont été mises dehors. Elles sont sur le palier. Il a été expulsé, mais sans son réfrigérateur, qui est à lui, et dans lequel il y a son insuline. Très, très rapidement, on se dit, rendez-vous 18h devant les trois frères. Et très, très rapidement aussi, il y a des copains qui débrouillent une salle au Poulpe, qui est la ressourcerie qui est juste à côté, en se disant on peut s'y retrouver un peu avant pour faire un point un peu rapide sur la situation et surtout sur les droits de Mebarek. Et ce qui a été reconfirmé par la suite par d'autres personnes, j'ai réussi finalement à remonter sur des dispositions qui m'indiquaient que le statut des locataires de longue durée dans certains types de meublés, dont ceux des hôtels, ressortaient du statut des locataires avec un bail meublé. Il y a ce préavis, c'est le délai du commandement de quitter les lieux, qui est 2 mois pour tout le monde, à partir du moment où on n'est pas rentré par effraction dans un endroit. Donc de toute façon, lui, il avait au minimum 2 mois, ensuite c'était quand même son domicile depuis 1990. Et par ailleurs, il y a la trêve hivernale. Mais cette trêve hivernale, on était quelques jours avant, puisque de mémoire, c'était le 24 octobre. Mais en tout cas, ce qui était certain, c'est que ça, ça s'appelait une expulsion extrajudiciaire. On était un peu dans la fébrilité, parce qu'on voyait bien que là, il y avait quelque chose d'irréversible un peu qui allait se poser. C'est-à-dire que Mebarek, on sentait bien qu'en fait, cette expulsion, elle ne le visait pas tant lui que finalement tous les autres. C'était le premier pas dans lequel, si jamais il réussissait à faire cette expulsion, alors potentiellement, tous les autres allaient vivre dans un climat assez terrorisant et dans lequel ils auraient pu continuer les augmentations de loyer sans avoir la moindre opposition et donc finalement les faire partir. On était un peu fébrile, on savait que ça se jouait maintenant. Et à 18h, on était 25-30 devant l'hôtel. Alors, ce qu'on s'était dit aussi, et qui n'avait pas fait de débat, et qui était très très simple à gérer, c'est qu'on allait devant l'hôtel, et puis qu'on appelait la police. Bon, il s'avère que j'avais le numéro direct du commissariat de la Goutte d'Or, donc on a pu les avoir assez rapidement. Ils nous ont renvoyés vers le service des patrouilles. Le service des patrouilles qui nous a expliqué que, bon, bah, ils arriveraient, mais qu'on n'était pas une urgence. Et une fois raccrochés, là, il y a d'autres copains qui sont arrivés, avec la banderole et le mégaphone. Et là, ça a pris une autre tournure.
Et on a donc demandé aux policiers d'intervenir pour réintégrer ce monsieur à l'intérieur de son domicile. Parce qu'ici, on est face à une violation de domicile, on est également face à une expulsion extrajudiciaire et peut-être même une mise en danger de la vie de cette personne qui n'a pas accès à ses médicaments comme elle devrait pouvoir l'avoir. Donc nous attendons la police. En espérant que celle-ci va procéder à la réintégration, puisqu'il a un droit de demeurer dans son domicile tant qu'un juge n'a pas décidé de l'en expulser.
Puis au bout d'une heure, là, on a quatre voitures de flics et un fourgon qui arrivent dans les deux sens de la rue, qui nous prennent en tenaille et qui arrivent en bonne intervention, comme si finalement ils avaient été appelés pour une urgence. Et donc, quand ils arrivent, on se présente, on leur explique la situation, que c'est nous qui les avons appelés, qu'on voudrait faire constater l'expulsion extrajudiciaire. Donc, ça décrispe la situation très rapidement, parce qu'en plus, il y a la major qui est là avec eux. Donc, elle prend conscience de la situation, elle priorise déjà la situation médicale de Mebarek, qui a besoin de pouvoir accéder à sa chambre dans laquelle il y a son traitement médical pour le diabète.
Eux étaient venus pour une intervention, finalement, de maintien de l'ordre, quoi. Ou quasi répressive. Parce qu'il y avait un camion, c'était bien pour embarquer deux, trois personnes. Une fois que tout ça a été posé, on est passé de la répression d'un groupe qui gueule sur le trottoir à... Ouais, il y a une situation pas normale quand même. Alors ça s'est terminé aux alentours de 21h. Finalement, les policiers ont autorisé Mebarek à faire appel à un serrurier, à ouvrir sa chambre, à y remettre ses affaires... et à changer la serrure. Et ils l'ont invité à venir déposer plainte le lendemain. Je crois que Mebarek, il était assez ému de voir le nombre de personnes qui étaient là, de voir qu'on était assez déterminés parce qu'on a quand même tenu le trottoir pendant au moins 3 heures, voire 3 heures et demie. À l'issue de ça, il a fallu trouver un serrurier. Donc on s'est collectés. Il y a eu des copains et des copines qui sont partis dans le restaurant pour expliquer aux personnes quel était l'objet de la mobilisation et voir s'ils ne voulaient pas participer. Et je crois qu'ils ont récupéré 50 euros, hein, au final. Mais pareil qu'il était très ému, ouais. Et puis soulagé aussi. Parce que forcément, pour lui, concrètement, il avait touché la rue du doigt pendant quelques heures. Et sa situation... lui aurait pas permis de faire autrement. Alors bien sûr, on se serait organisé pour les canapés des uns et des autres, mais sur la durée, c'était quelque chose qui allait changer sa vie. 36 ans aux trois frères et du jour au lendemain, à la porte.
Ce qui m'a choqué, c'est que je lui ai dit, voilà, je suis diabétique. J'ai mon traitement, j'ai mon insuline à l'intérieur. Il me dit tout est dans les paquets là-bas. Quand j'ai ouvert le soir la porte, toute l'insuline était dans le frigo. Il a juste débranché le frigo. Et mon insuline était restée dedans. Je suis resté pratiquement une vingtaine d'heures sans insuline. Et finalement, bon, ça s'est bien passé. Il y a une mobilisation quand même générale des gens qui se sont dit qu'on est là, t'inquiète pas, et il n'a pas le droit de faire ça, il ne va pas le faire. J'étais ému, j'étais aux larmes.
Je pense que c'est la spontanéité de la chose qui a vraiment été le nœud dans cette affaire. On est dans un quartier dans lequel on se connaît tous. On n'a pas eu à tergiverser, on n'a pas eu à faire d'assemblée générale, on n'a pas eu à prendre un avis. Et qu'en fait, le fait que ce soit spontané, ça a pris tout le monde de court, y compris les policiers. Et donc on a réussi à garder ce rapport de force pour nous. Et c'est cette spontanéité-là qui a fait qu'on a eu une action qui était très efficace. Et ce qu'on a compris autour de cette affaire, c'est que le 115 est beaucoup plus rentable qu'une location longue durée. Et que pour une occupation d'une chambre simple, ce sera 900 euros par mois. Pour une occupation d'une chambre double, ce sera 1200 euros par mois. Et quand on se rend compte que le 115 est prêt à débourser 1200 euros par mois pour une chambre de 9 mètres carrés, sans sanitaire, sans douche, on comprend que les loyers flambent de partout. Donc ça pose une grosse difficulté, en fait. C'est qu'au final, ce sont ces chambres-là qui vont être vouées à disparaître. Et nous, dans ces chambres-là, ben, on a des copains et des copines. Et donc ça va être la perte de ce logement intermédiaire. Et donc cet entre-deux, qui permet à beaucoup de personnes de subsister, on craint que demain il n'existe plus. Et c'est la dernière chose sur laquelle on voudrait s'opposer, je crois. Parce qu'au final, dans cette affaire, on a obtenu la réintégration de Mebarek. Et ça, c'était juste de la justice pure et simple. Ce qu'on a obtenu aussi derrière, c'est dans un premier temps la suspension des augmentations de loyer, puis le remboursement pour toutes les personnes. Mais je crois que ce qu'on aimerait, sur lequel on voudrait se concentrer pour la suite, c'est de continuer à avoir ce logement un peu informel, un peu de l'entre-deux, celui qui permet à tous les galériens de continuer d'être dans la ville. Parce que Paris, c'est aussi une ville qui est faite par des galériens, et la Goutte d'Or, c'est aussi un quartier qui est fait par des galériens et qui vit par des galériens. D'autant plus quand c'est des anciens. Et donc, bah voilà. Donc on continue, quoi.
Dans le collectif, finalement, je me suis découvert des amis. Des amis qui m'ont vraiment tendu la main, qui m'ont aidé, que ce soit avec des produits alimentaires, que je distribue aussi. Je prends tous les jours quelque chose que je récupère, des œufs, des légumes, des fruits, je distribue aux vieux de la cour. Il y a une cour derrière l'hôtel, il y a 5 locataires qui habitent, une petite courette là-bas. C'est des personnes âgées, ils n'ont pas assez de moyens, donc un paquet d'œufs, ça lui fait quand même 2-3 jours de course en moins, des légumes, des fruits. Moi, comme j'ai accès aux ressourceries, à des distributions des fois gratuites, je profite, je charge 2-3 sacs, je fais la distribution aussi à l'hôtel pour les pauvres gens. Voilà, quand je peux, je peux. Et voilà, depuis, ça continue. On ne sait jamais où est-ce que ça va s'arrêter. Du moins, on voit tous les jours des gens qui arrivent, qui partent. C'est comme un hall de gare, ce n'est plus un hôtel. C'est un hall de gare. Ils descendent, des fois tu trouves 15-20 valises en bas. Où est-ce qu'ils vont mettre tout ça? C'est pas possible. Ce n'est plus les mêmes personnes qu'on connaît, tu vois, depuis des années, on se retrouve des fois le soir, on joue aux cartes, c'est comme un foyer, quoi, c'est comme ton propre foyer, tu connais tout le monde, on fait une partie de domino, on fait une partie de cartes, on rigole. Maintenant, il n'y a plus ça.
Et vous n'avez pas envie de partir?
Ah si, je trouve quelque chose d'intéressant, pourquoi je n'ai pas envie de partir? Je vais partir. On vit au jour le jour, quel quotidien. On est là, comme dit l'autre, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Demain, de quoi est fait, personne ne sait. Donc, il faut vivre au jour le jour.
que está prohibida. Y si no me la miras, et salvarías. Però sense mossegar. This ghost is still alive. I'm still alive. Està més viva que mai. Més viva que mai.
C'était Mébarek et la force du collectif, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de Louise André. Merci bien sûr à Mébarek Amar, à Lucas, Émilie, Georgia, Alice, Anne-Julie et les autres membres du collectif de quartier ainsi qu'à l'équipe du restaurant associatif d'Arzine dans le 18e arrondissement de Paris. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Mina Morel. Quant à moi, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. Et pour ceux qui n'aiment pas cette fête ou qui sont tristes, pour les adultes surtout, qui n'ont plus la magie de Noël dans les yeux, je recommande vivement le texte de Paul B. Preciado, publié dans Libération et qui s'appelle « Je déteste Noël ». Je vous en lis deux extraits pour vous remonter le moral, pour que vous vous sentiez moins seul. Noël est la période de l'année la plus stupide, dit Preciado, et la plus vide. Celle où on regarde les pires films et les émissions de télévision les plus embarrassantes, où l'on écoute et chante les pires chansons, où l'on organise les pires fêtes, où l'on envoie et reçoit les messages les plus bidons, où on a les conversations les plus fausses et où, malgré les apparences et les dépenses, on mange le plus mal. Un peu plus loin, les tristes sombrent dans la dépression, les malades s'aggravent, les couples en crise se disputent, ceux qui luttaient pour ne pas retomber dans un vice qui les rongeait finissent par s'y abandonner désespérément. Ceux qui avaient arrêté de fumer allument à nouveau une cigarette. Ceux qui le peuvent consomment jusqu'à l'ennui. Et ceux qui ne peuvent pas pensent que leur ennui cesserait s'ils pouvaient consommer. Fin de citation. Bien sûr, tout le monde ne partage pas ce point de vue et nous respectons et donnons souvent la parole à ceux qui sont heureux de fêter la naissance du Christ, car n'oubliez pas, nous sommes pluralistes et impartiaux. Allez, joyeux Noël !